Marc 10, versets 13 à 31. Des gens amenèrent Jésus, de petits enfants, pour qu'il pose les mains sur eux, mais les disciples leur firent des reproches. Jésus le vit et il s'en indigna. « Laissez donc les petits enfants venir à moi. Ne les en empêchez pas, car le royaume de Dieu appartient à ceux qui leur ressemblent. » Vraiment, je vous l'assure, celui qui ne reçoit pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y entrera pas. Là-dessus, il prit les enfants dans ses bras, posa les mains sur eux et les bénit. Comme il partait, un homme accourut, se jeta à genoux devant lui et lui demanda « Bon maître, que dois-je faire pour obtenir la vie éternelle ?»« Pourquoi m'appelles-tu bon ?» lui répondit Jésus. « Personne n'est bon, sinon Dieu seul. » Tu connais les commandements. Ne commets pas de meurtre, ne commets pas d'adultère, ne vole pas, ne porte pas de faux témoignages, ne fais pas de tort à personne, honore ton père et ta mère. Maître, répondit l'homme, tout cela je l'ai appliqué depuis ma jeunesse. Jésus posa sur cet homme un regard plein d'amour et lui dit, il ne te manque qu'une chose, va, vends tout ce que tu possèdes, donne le produit de la vente aux pauvres et tu auras un capital au ciel. Puis viens et suis-moi. En entendant ces paroles, l'homme s'assombrit et s'en alla tout triste, car il était très riche. Jésus parcourut du regard le cercle de ses disciples, puis il leur dit « Qu'il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. » Cette parole les surprit, mais Jésus insista. « Oui, mes enfants, qu'il est difficile d'entrer dans le royaume de Dieu. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » Les disciples furent encore plus étonnés et ils se demandaient entre eux « Mais alors, qui peut être sauvé ?» Jésus les regarda et leur dit « Aux hommes, c'est impossible, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. » Alors Pierre demanda « Et nous ? Nous avons tout quitté pour te suivre ?» Et Jésus répondit « Vraiment, je vous l'assure, si quelqu'un quitte à cause de moi et de l'Évangile, sa maison, ses frères, ses sœurs, sa mère, son père, ses enfants ou ses terres, il recevra 100 fois plus dès à présent, des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants, des terres, avec des persécutions, et dans le monde à venir, la vie éternelle. Mais beaucoup qui sont maintenant les premiers seront les derniers, et beaucoup qui sont maintenant les derniers seront les premiers. »
Merci Anne-Edith. Vous vous dites peut-être que la prédication n'est pas pour vous ce matin parce que vous ne pensez pas avoir de problème avec l'argent. Vous vous dites peut-être que certains d'entre vous se disent « Je suis pauvre ou catégorie moyenne, donc je n'ai pas de problème avec l'argent. » Ou peut-être que vous avez beaucoup d'argent, mais peut-être que vous êtes généreux et donc vous vous dites « Je n'ai pas de problème avec l'argent. » Et c'est bien là tout le problème. C'est là la puissance d'aveuglement des richesses. Avec l'argent, on peut toujours trouver quelqu'un qui en a plus que nous. Et le fait de trouver quelqu'un qui en a plus que nous fait que, eh ben, on culpabilise pas, tout va bien, il y a quelqu'un qui est au-dessus de moi. Bon, à part Jeff Bezos, le patron d'Amazon, qui est l'homme le plus riche du monde. L'argent, c'est pourtant le thème éthique que Jésus a le plus commenté durant son ministère. Et si c'était à toi que Jésus avait dit « Va, vends tout ce que tu as et suis-moi. » Qu'est-ce que tu aurais fait ? Qu'est-ce que tu aurais fait en fonction de ce que tu as, bien entendu ? Aurais-tu été capable de faire comme le fameux François, né riche dans une ville qui s'appelle Assise en Italie, 12e siècle, et ce jeune homme riche a tout donné, strictement tout. Il a renoncé à l'héritage de ses parents et il a fondé un ordre pauvre, mendiant, qu'on appelle aujourd'hui les franciscains. Peut-être que tu étais venu avec joie ce matin et peut-être que tu te dis que maintenant ça va être douloureux. Ce matin, je prie que cette douleur soit salutaire pour chacun d'entre nous et moi le premier, les amis, moi le premier. La plupart d'entre nous avons réussi notre vie selon les critères humains. On a tous globalement les signes extérieurs de la richesse, on a tous un toit, on a tous une maison, enfin qu'on soit propriétaire ou locataire, on a tous une voiture, au moins une voiture, on a tous une télé, des habits. Un peu comme cet homme riche finalement qui est venu rencontrer Jésus. Cet homme, il a clairement réussi selon les critères humains et pourtant Jésus va lui dire que selon ses propres critères à lui, eh bien, il va tout perdre. Tout perdre. L'argent et la réussite n'égalent pas la vie éternelle. La vie éternelle, elle est pour qui ? Parole de Jésus, elle est pour les perdants de ce monde. Et c'est ça qu'on va essayer de comprendre. La vie éternelle, elle est gagnée par ceux qui acceptent de tout perdre. Vous avez peut-être remarqué que Marc, ici, juxtapose deux récits. Au début, on peine à comprendre comment ils sont liés. Mais on va voir ensemble qu'ils sont bien étroitement liés. Il juxtapose un premier récit concernant des enfants qu'on amène à Jésus. Et à cet autre récit de l'homme riche. Et on va voir qu'avec les enfants, c'est la première impossibilité de ce récit. Des perdants qui gagnent. On va voir qu'avec l'histoire du jeune homme riche, c'est la deuxième impossibilité du récit. Cette fois-ci, des gagnants qui perdent. Et comment tout cela est-il possible ? Comment ces deux impossibilités-là sont en fait possibles ? Ben parce que c'est Dieu qui rend possible l'impossible. Allez, on va attaquer par la première impossibilité. On va essayer de comprendre cette histoire de perdant qui gagne. Versets 13 à 16, des parents amènent à Jésus leurs enfants pour qu'ils les bénissent. Et comment est-ce que réagissent les disciples ? Eh bien, exactement comme des videurs de boîtes de nuit, ils essayent d'empêcher les parents d'approcher de Jésus. Mais c'est vrai que, contrairement à aujourd'hui où l'enfant est roi, eh bien les enfants de cette époque ne sont pas bien considérés. À l'époque, ce sont plutôt des fardeaux, ce sont des bouches à nourrir, en attendant le moment où ils sont suffisamment grands pour pouvoir ramener quelque chose à la maison. Et que fait Jésus avec ces perdants que sont les enfants ? Eh bien, il va les bénir. Il les prend sur ses genoux, il les bénit. Mais avant cela, eh bien Jésus enseigne à tous ceux qui sont présents, la première impossibilité de notre récit. Le royaume de Dieu appartient à qui ? À ceux qui leur ressemblent. Laissez les petits-enfants venir à moi. Vraiment, je vous l'assure, celui qui ne reçoit pas le royaume de Dieu comme un petit-enfant n'y entrera pas. Qu'est-ce que ça veut dire ressembler à un enfant ? Pour pouvoir entrer dans le royaume de Dieu. Est-ce que ça veut dire avoir une foi aveugle ? Il n'y a pas d'enfant là, c'est bon. Est-ce que ça veut dire croire au Père Noël ? Est-ce que ça veut dire surtout ne pas poser de questions difficiles ? Est-ce que ça veut dire déposer son cerveau avant d'entrer dans une église et arrêter de réfléchir ? Est-ce que c'est ça que ça veut dire ressembler à un enfant ? Heureusement que non. Pourtant, nous chrétiens, on est souvent moqués, on est souvent raillés. Peut-être que des amis vous l'ont dit, ça. Ah, toi, tu y crois, tu as trouvé ta paix, tant mieux pour toi, mais moi, je considère que tout ça, c'est n'importe quoi. C'est une façon habile de se moquer en disant qu'on n'y croit pas. Jésus ne nous demande pas de croire à partir de rien. Jésus, il a vécu de façon certaine. Il est mort sur une croix de façon certaine. Et il est ressuscité 3 jours après, de façon certaine. Comment le sait-on ? Eh bien, il y a eu des témoins. Paul dit même qu'il y a eu plus de 500 témoins en même temps. Vous trouverez ça dans 1 Corinthiens chapitre 15. Plus de 500 personnes en même temps pouvaient témoigner qu'ils avaient vu Jésus vivant après sa mort. Nous n'avons pas à avoir une foi aveugle. Nous n'avons pas besoin de déposer notre cerveau. Au contraire. Gardons le bien accroché et utilisons tous nos neurones au service de Dieu. Quand on met la Bible à l'épreuve, on a plus de preuves que pour tous les autres documents de l'Antiquité. Ces témoins dont on a parlé à l'instant, certains ont accepté de mourir dans l'arène parce qu'ils ont refusé de renier leur témoignage. Ils ont refusé de dire qu'ils n'avaient pas vu Jésus-Christ ressuscité. ils l'avaient bel et bien vu. Ça avait tellement transformé leur vie qu'ils en ont accepté la mort. Ressembler à un enfant ne veut pas dire avoir une foi aveugle. Alors pour comprendre ce que ça veut dire ressembler à un enfant, il nous faut aller plus loin et il nous faut attaquer l'impossibilité numéro 2, des gagnants qui perdent. Le jeune homme riche, à bien y réfléchir, c'est une recrue parfaite pour le camp de Jésus. Il est respectueux envers Jésus. Il offre un bel exemple de vie fidèle à Dieu, à la loi de Dieu. Et Jésus même reconnaît qu'il est hyper proche. Il est tellement proche qu'il ne lui manque quoi ? Qu'une seule chose, tellement il est proche. Mais malgré tout, à la fin, qu'est-ce qu'il fait ce jeune homme riche ? Il s'en va. Il n'entre pas. Il ne suit pas Jésus. Comment ce gagnant a-t-il perdu ? Je vous le relis. Comme il partait, un homme accourut, se jeta à genoux devant lui et lui demanda « Bon maître, que dois-je faire pour obtenir la vie éternelle ?»« Pourquoi m'appelles-tu bon ?» lui répondit Jésus. « Personne n'est bon, sinon Dieu seul. Tu connais les commandements. Ne commets pas de meurtre, ne commets pas d'adultère, ne vole pas, ne porte pas de faux témoignages, ne fais de tort à personne, honore ton père et ta mère. » « Maître, répondit l'homme, tout cela je l'ai appliqué depuis ma jeunesse. » Jésus posa sur cet homme un regard plein d'amour et lui dit « Il ne te manque qu'une chose. Va, vends tout ce que tu possèdes, donne le produit de la vente aux pauvres et tu auras un capital au ciel. Puis viens et suis-moi. » En entendant ces paroles, l'homme s'assombrit et s'en alla tout triste, car il était très riche. Quelle tristesse! L'homme riche, il a compris beaucoup de choses. Il a compris beaucoup de choses sur Dieu. Mais en fait, on va se rendre compte qu'il se trompe sur l'essentiel. Il se trompe sur le seul et unique point qui est finalement important. Vous avez peut-être remarqué que Jésus ne répond pas immédiatement à la question. Le jeune homme riche arrive avec cette question : que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle ? Et Jésus, lui, qu'est-ce qu'il dit ? Pourquoi m'appelles-tu bon ? On a l'impression que Jésus est complètement à l'ouest dans cette histoire. Mais en fait, à bien y réfléchir, on va voir que Jésus, il tape pile poil dans le mille par rapport à ce jeune. Parce que le problème auquel sont confrontés les gens qui ont de l'argent, nous les premiers, c'est qu'on en vient à penser qu'on peut tout acheter. Et regardez la question que pose le jeune, l'homme riche, pardon. Que dois-je faire ? Il pense qu'en faisant quelque chose, il va pouvoir entrer dans le royaume de Dieu. C'est le salut par les œuvres. Faire. C'est mériter. C'est être suffisamment bon pour obtenir la vie éternelle. Et donc, on comprend que la question de Jésus n'est pas du tout à côté de la plaque. Jusqu'à quel point dois-je être bon pour hériter la vie éternelle ? Jésus lui dit, personne n'est bon. Pourquoi m'appelles-tu bon ? Personne n'est bon. Et puis, la suite confirme exactement cette analyse. Regardez ce que dit Jésus. Tu connais les commandements. Oui, tu connais les commandements numéro 5, 6, 7, 8, 9, 10, et tu les as appliqués depuis ta jeunesse. Pourtant, tu es incapable d'appliquer le commandement numéro 1. Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi devant ma face. Quel est le Dieu de cet homme ? La richesse. Jésus n'est pas du tout à l'ouest, il a tout compris. Cet homme a bien un point faible, et son point faible, c'est l'argent. Une chose, l'argent, qui prend la place de Dieu ici dans sa vie. Et donc vous voyez qu'en comparant les jeunes enfants du premier épisode avec l'homme riche de ce deuxième épisode, vous comprenez maintenant ce que ça veut dire ressembler à un enfant pour entrer dans le royaume de Dieu. On a l'exemple et le contre-exemple ici, en quelque sorte. L'homme riche, il arrive avec toutes ses bonnes actions. Il croit qu'il peut mériter quelque chose, être suffisamment bon pour entrer dans le royaume de Dieu. Mais c'est un perdant aux yeux de Dieu. En revanche, l'enfant, il arrive comment ? Il arrive humblement. L'enfant, il n'a rien à apporter, il a les mains vides, il a conscience de sa nudité, en quelque sorte. Et l'enfant, eh bien, c'est un gagnant. Dieu est prêt à tout lui donner, parce qu'il est juste dépendant de lui. Alors, forcément, on est obligé de se poser cette question-là. À qui est-ce qu'on ressemble? Est-ce qu'on ressemble à un enfant? Est-ce qu'on s'approche de Dieu les mains vides ou conscient que nous avons les mains vides? Ou est-ce qu'on ressemble à cet homme dont la sécurité est ailleurs, cet homme qui croit pouvoir plaire à Dieu par ses propres forces? Cet homme, il a deux problèmes. Il croit en la religion des œuvres et sa sécurité, c'est son argent. Et Jésus, qu'est-ce qui se passe? Jésus, comment réagit-il? Est-ce qu'il l'envoie balader comme ça, cet homme? Non, Jésus, il l'aime. Il l'aime, cet homme. Regardez le verset 21. Jésus posa sur cet homme un regard plein d'amour. Et c'est la même chose pour nous ce matin. Il nous regarde, Dieu, il nous voit avec notre compte en banque et nos possessions. Et il nous aime, il nous aime. Le Dieu de l'univers nous voit et nous aime. Il est même devenu un homme pour que des idolâtres qui ne sont pas bons, que nous sommes, puissions entrer un jour dans la vie éternelle. Et qu'est-ce qu'il nous dit, Jésus? Eh bien, il nous appelle à tout quitter pour lui, tout quitter, tout perdre. Quand même, Jésus, tout perdre, en particulier l'argent. Les amis, je crois qu'on a besoin de voir l'argent exactement comme Jésus le voit, comme finalement quelque chose qui peut être un piège pour nous empêcher de le suivre. Parce que dès que l'argent garantit notre confort, eh bien, on en veut plus. Et l'argent, on le met en banque et on se sent en sécurité quand on voit notre compte en banque monter, mois après mois. Faut-il donc devenir pauvre pour entrer dans la vie éternelle? Bonne nouvelle, la réponse est non. Non, parce que l'argent est ici le problème de cet homme particulier, ici. Mais peut-être que notre problème à nous, peut-être que ton problème à toi, peut-être que mon problème à moi n'est pas l'argent. Peut-être que ton idole est différente de l'argent. En tout cas, ce matin, à travers cet épisode de cet homme riche, nous sommes chacun appelés à diagnostiquer quelle est notre idole, quelles sont nos idoles. Discerner nos idoles. Y a-t-il des choses que nous ne serions pas prêts à abandonner? Y a-t-il des choses qui comptent plus que Dieu dans notre vie? Je voudrais vous donner un exemple. C'est l'exemple d'un singe. Dans certaines îles, les indigènes locaux attrapent les singes avec une technique de chasse un peu particulière. Ils prennent une noix de coco, ils percent un trou assez petit, qui permet juste au singe de rentrer la main dedans. Et dans la noix de coco ainsi évidée, il vient de mettre une petite cacahuète. Et en fait, ce que le singe va faire, il va passer sa main par le trou dans la noix de coco, il va fermer le poing sur la cacahuète, et après, poing fermé, il ne peut pas retirer sa main. Il est prisonnier dans la noix de coco. Et chose impressionnante, le singe préfère se faire attraper que de lâcher la cacahuète. J'étais abasourdi en entendant ça. Je me disais, mais c'est pas possible, il est débile le singe ou quoi? Mais en fin de compte, j'ai pris ça comme une baffe, mais est-ce qu'on n'est pas exactement pareil? Vous imaginez un portefeuille bien rempli à la place de cette cacahuète. Vous passez votre main dans le trou. Est-ce que vraiment vous allez lâcher votre porte-monnaie ou autre idole que ce soit pour entrer dans le royaume de Dieu et suivre Jésus? Ou est-ce que vous allez rester la main coincée dans la noix de coco? En tout cas, cet homme riche ici, il garde la main prisonnière. Il préfère garder la main prisonnière avec son portefeuille bien rempli dans la main. Et il renonce, pensez-vous, cet homme riche, il renonce à la vie éternelle pour pouvoir préserver sa richesse. Alors, je vous repose la question, quelles sont nos idoles? Quelles sont nos idoles qui peuvent nous empêcher d'entrer dans la vie éternelle? Et une des façons assez simples parmi tant d'autres de les identifier, c'est de se poser la question, quand vous pensez à rien de particulier, à quoi est-ce que vos pensées divaguent? À quoi est-ce que vos rêveries vous conduisent? Parce que nos rêves, nos pensées trahissent souvent ce à quoi on pense en majorité. Est-ce que quand tu rêves, quand tout va bien, les doigts de pied en éventail, est-ce que tu penses d'abord à ton prochain avancement professionnel? Est-ce que tu penses au pouvoir? Est-ce que tu penses au prochain smartphone dont tu rêves depuis quelques mois? Est-ce que tu penses à une personne en particulier? Est-ce que tu penses à ta prochaine partie de jeu vidéo? Est-ce que tu penses à l'Église? Peut-être que tu penses à l'Église et que l'Église peut devenir une idole pour toi. Ta sécurité, tu la places dans l'Église, dans ce que tu peux vivre ici, dans la joie que tu peux recevoir, dans les contacts que tu peux avoir. Est-ce que c'est ça ta sécurité? L'Église peut aussi devenir une idole. Alors, pensez à ces choses de temps en temps, on y pense tous. Hein. Ça fait pas des idoles, tout ça. Mais s'il y a une chose qui vraiment prend l'ascendant sur toutes ces choses et qui nous permet de retrouver le sourire quand on l'a plus, alors ouais, il y a de grandes chances que ça soit peut-être une idole qui gouverne notre vie. Mais il y a une mauvaise nouvelle très certaine pour chacun d'entre nous, c'est qu'en fait, on est tous idolâtres, à bien y réfléchir. On n'échappe à aucun des deux problèmes du jeune homme riche. On voudrait tous pouvoir gagner notre place au ciel par nos propres forces. On voudrait tous être suffisamment bons pour pouvoir le mériter. Et on a tous des idoles qui veulent à tout prix prendre la place de Dieu, sans arrêt, sans arrêt. Notre cœur, on l'avait vu déjà, vous vous souvenez, Marc chapitre 7, car c'est du fond du cœur que viennent les mauvaises pensées qui conduisent à plein de choses. Notre cœur est comme une usine qui fabrique des idoles en permanence, qui veulent prendre la place de Dieu. Tout perdre pour gagner la vie éternelle. Finalement, je comprends pourquoi cet homme riche, il est parti. Je comprends, franchement. Parce que c'est inconcevable, accepter de tout perdre pour suivre Jésus. Et même les disciples, hein, ils sont choqués, hein, ils sont fondamentalement choqués. Jésus parcourut du regard le cercle de ses disciples, puis il leur dit qu'il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Cette parole les surprit, mais Jésus insista. Oui, mes enfants, qu'il est difficile d'entrer dans le royaume de Dieu, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples furent encore plus étonnés et ils se demandaient d'entre eux, mais alors, qui peut être sauvé? Même les disciples, ils ne savent même plus quoi en penser là. Parce que l'histoire du chameau qui passe dans le trou d'une aiguille, mais ça laisse perplexe tout le monde. Mais il ne faut pas se prendre la tête, c'est juste impossible. C'est juste impossible. Qui peut entrer dans le royaume de Dieu? Par ses propres forces. Mais personne, personne. Heureusement que Christ a donné sa vie sur une croix pour nous sauver. Et il nous appelle à tout renoncer, sachant cela, pour le suivre. Qui peut être sauvé? Le Dieu qui rend possible l'impossible. Aux hommes, c'est impossible, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. C'est vrai que l'appel à tout perdre, il est largement au-delà de ce qu'on est capable de faire, largement au-delà de nos capacités. Mais ce n'est pas la fin de l'histoire, parce que justement, Dieu rend possible cet impossible. Si vous êtes face à cet appel de Jésus, à tout sacrifier, eh bien, croyez dans le Dieu de la Bible qui peut tout faire. Croyez dans le Dieu qui peut vous faire lâcher vos idoles et vous faire démarrer une vie nouvelle, libre de toute chaîne, comme on le chante dans un chant. Ne croyez pas avec une foi aveugle et sans fondement, mais croyez dans le Dieu de la Bible qui accomplit l'impossible dans la vie des gens. Apprendre à lâcher nos idoles, c'est un travail qui va nous prendre toute la vie, pour déraciner les idoles qui veulent s'enraciner à nouveau. Mais c'est le travail que Dieu rend possible dans notre existence. Nous sommes invités à nous comporter comme des enfants qui attendent tout de Jésus et qui reviennent à lui sans cesse les mains vides pour lui demander des forces neuves pour arriver à continuer à lâcher prise par rapport à nos possessions et nos idoles. Être conscient qu'en dehors de Christ, nous n'avons finalement aucun trésor à prévaloir. Alors forcément, on se demande si on fait bien d'écouter Jésus et d'accepter de tout perdre. Et c'est aussi la question que se posent les disciples. Jésus est-il véritablement la perle de grand prix qui mérite de lâcher toutes les autres? Jésus est-il vraiment le trésor qui éclipse tous les autres trésors du monde? Suis-je prêt aujourd'hui à mettre toute ma vie à la poubelle pour gagner Christ? C'est ça la foi. C'est ça la foi. Ces disciples qui ont peur, qui ont tout quitté pour suivre Jésus et qui se disent « Mais et nous, qu'est-ce qui va nous arriver? On a tout quitté pour toi. » Réponse de Jésus. « Vraiment, je vous l'assure, si quelqu'un quitte à cause de moi et de l'Évangile, sa maison, ses frères, ses sœurs, sa mère, son père, ses enfants et ses terres, il recevra, écoutez bien, 100 fois plus dès à présent. » Vous vous demandez encore si ça vaut le coup de renoncer à tout pour suivre Jésus? Que dit Jésus? Renoncez, vous obtiendrez 100 fois plus dès maintenant. Je ne sais pas si on est 100 dans cette salle ce matin, je ne crois pas. Mais si on était 100, rien qu'en disant ça, on pourrait dire vous avez au moins 100 frères et sœurs parmi vous. Ce que vous n'auriez pas sans Christ, sans avoir renoncé à lui, à tout, pardon. Des maisons, si vous êtes en galère, des frères et sœurs qui vous épaulent, qui vous écoutent, qui vous encouragent, qui prient pour vous. Des terres. On est monté à Paris pendant les vacances, on a été hébergé par des amis chrétiens. Il y a aussi l'histoire des persécutions. On reçoit des persécutions aussi quand on laisse tout pour Jésus. Et c'est vrai, ne serait-ce que les moqueries de nos collègues, de nos amis, de notre famille qui ne comprend pas exactement notre engagement. Et encore, en France, on a de la chance, ce ne sont que ce type de moqueries. Mais dans certaines parties du monde, ils savent le coût de la suivance de Christ. Alors oui, tout perdre en faisant confiance à Dieu, c'est un investissement qui paie. Au-delà de tout ce que vous pourriez investir en actions, à la bourse, laissez tomber. Dieu récompense bien plus l'engagement envers lui. Il y a un missionnaire qui, peut-être le connaissez-vous, il s'appelle Hudson Taylor. Lui, il avait tout quitté pour annoncer l'évangile, annoncer Christ en Chine, où il est resté pendant 50 ans. Et à la fin de sa vie, il a dit cette phrase qui est restée assez célèbre. « Je n'ai jamais fait un sacrifice. » Lui qui avait tout laissé tomber pour aller annoncer la parole en Chine, il a écrit « Je n'ai jamais fait un seul sacrifice. » Sous-entendu, Dieu a compensé au centuple tout ce que j'ai pu abandonner pour lui. Alors les amis, je vous invite à faire un truc de très simple. Regardez à votre droite, regardez à votre gauche, et bien vous voyez votre nouvelle famille. Vous voyez votre nouvelle famille dont les liens sont plus forts que les liens du sang, des gens qui vous hébergeraient et vous nourriraient si vous étiez en galère. Et le meilleur pour la fin, la vie éternelle, une relation parfaite avec notre Créateur qui nous aime, relation qui nous comblera à plus de 100% pour l'éternité. Une vie sans souffrance, sans mal, sans larmes, il essuiera toutes les larmes de nos yeux. Le mal n'existera plus. Finalement, par rapport à tout ça, mais le prix à payer pour le suivre paraît maintenant dérisoire à bien y réfléchir, une fois que Christ a annoncé toutes les récompenses, car il s'agit bien de récompenses. Alors ma prière ce matin, c'est que Dieu nous donne cette humilité, chacun, de identifier nos idoles. Humilité pour identifier nos idoles, qu'il nous donne aussi, qu'il renouvelle sans cesse notre courage pour arracher ces idoles et les lâcher, renoncer, les déterrer, pour y planter l'amour de Christ à la place. Parce que, eh bien, en faisant cela, nous saisissons la récompense que Christ nous a promis, la vie éternelle, et cette récompense de 100 fois plus de choses que ce que nous pourrions laisser tomber ici sur Terre. Pendant ces vacances où on était à Paris, on a déjeuné avec des amis qui ont 4 enfants. Ils étaient un peu inquiets pour leur aîné qui s'appelle Nicolas, parce que pendant toute l'année scolaire, il a travaillé. Il a travaillé dur. Il a passé l'aspirateur. Il a nettoyé les escaliers. Il a fait le ménage dans la maison. Il a tout rangé. Et à chaque fois, ses parents lui donnaient un petit quelque chose. Et ils se disaient, mais est-ce qu'il est en train de devenir matérialiste? Oh non, pitié! Et qu'est-ce qu'il a fait à la fin de l'année scolaire? En juin, en juillet, pardon, au début des vacances, il a payé à toute sa famille 6 entrées au parc Aqua Boulevard. Et ils sont allés se réjouir tous en famille avec ce que l'aîné avait gagné pendant toute l'année à la sueur de son front. Et ses parents, les bras leur en sont tombés, ils étaient tellement heureux que leur fils ait fait ça. Nicolas, qui réinvestissait son argent dans le bien commun. Et je me suis dit, quel bel exemple pour nous aider à lâcher prise, nous aussi. Quelques petites questions pour vous challenger pendant le reste de la semaine. Combien est-ce que tu donnes pour Dieu ? Combien est-ce que tu donnes pour l'annonce de l'Évangile, ici, à Pau, et puis plus loin, dans le monde ? Combien est-ce que tu donnes pour l'entraide fraternelle ? Est-ce que tu donnes avec joie ? Est-ce que tu donnes avec joie ? Ou est-ce que tu es juste dégoûté et tu cours sans arrêt en disant « Non, mais j'en essayant de trouver des moyens de donner moins ?» Non. Est-ce que tu accepterais de travailler moins pour servir un peu plus à l'Église ou ailleurs ? Est-ce que tu accepterais de déménager pour Christ, quelque part ? Est-ce que tu accepterais de vendre ta maison pour entrer dans une location, par exemple, pour avoir plus de ressources pour aider ? La prochaine fois que tu changes de voiture, est-ce que tu prends le modèle un poil plus petit ? Est-ce que tu arrêtes de râler contre ceux qui ont plus d'argent que toi et que tu envies peut-être secrètement ? Ce n'est pas des leçons de morale, hein, c'est des questions que je me pose d'abord à moi-même. Hein. Est-ce que tu acceptes d'être rejeté par ta famille, tes collègues, tes voisins, parce que tu crois en Christ qui peut rendre possible l'impossible dans ta vie ? C'est vrai que ce prix peut être dur, mais les sacrifices, ils sont rien à côté des récompenses qui nous attendent. Ça vaut le coup de vivre sans possession, parce qu'on ne manquera jamais de rien. Christ nous l'a promis, et on va gagner ce que l'on ne pourra jamais perdre, la vie éternelle. Amen.